Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Rideau Rouge. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une famille dont le moins qu'on puisse dire qu'elle n'est pas fréquentable, à savoir la famille des Atrides. Alors la famille des Atrides, ça remonte très loin, ça commence entre Atrides et Thieste. Atrée, pardon, et Thieste. Atrée tue les enfants de Thieste, lui fait manger, enfin bon, c'est pas... Et j'en arrive aux descendants d'Atrée, et j'en arrive à la génération de Oreste et Électre. Alors, je rappelle en gros l'histoire. Lorsque les Grecs décident de partir en guerre contre la ville de Troie, on apprend que les bateaux ne pourront pas s'en aller si Agamemnon ne sacrifie pas sa fille Iphigénie. Agamemnon accepte, Iphigénie est sacrifiée, et la flotte grecque peut partir sous les murs de Troie. Mais voilà, lorsque Agamemnon revient, son épouse, Clytemnestre, l'assassine avec la complicité de son amant, Égiste. Agamemnon avait plusieurs enfants, notamment une fille, Électre. Alors, cette fameuse Électre, fille d'Agamemnon et de Clytemnestre, a donné naissance à une quantité incroyable d'œuvres. La plus connue à notre époque est peut-être l'Électre de Giraudoux, mais il y a eu aussi un opéra de Richard Strauss, une pièce de Eugène O'Neill, Le deuil s'est scié à Électre. Marguerite Yourcenar a écrit aussi sur Électre. Et puis il y a eu, encore plus proche de nous, une pièce de Jean-Paul Sartre, Les mouches. Il y a eu un film de Kakoyanis, metteur en scène grec. Et je voudrais aujourd'hui quand même évoquer une Électre qui est à l'origine peut-être de toutes celles qui ont suivi, l'Électre de Sophocle. Alors Sophocle, finalement, c'est un des plus grands dramaturges grecs. On sait qu'il est né aux environs de l'an 496 avant Jésus-Christ. Dans une famille aisée, il est né non loin d'Athènes, sa famille était riche, et on sait qu'il a écrit à peu près 123 pièces. Sur ces 123 pièces, il nous en reste 8, ce qui est peu. Mais ces pièces restent quand même le fondement de tout un développement théâtral. Je signalerai aussi que Électre a été utilisé par Jung, le psychanalyste, pour qualifier ce qu'on a appelé depuis le complexe d'Électre. Alors, sans doute connaissez-vous le complexe d'Œdipe, vous savez, lancé par Freud. Le complexe d'Œdipe, c'est le petit garçon qui est amoureux de sa maman. Eh bien là, c'est le versant féminin, si j'ose dire. Le complexe d'Électre, c'est la petite fille qui est folle amoureuse de son papa. Pensez-en ce que vous voulez, mais les pièces de Sophocle garde quand même une valeur inestimable. Alors, je voudrais évoquer tout d'abord le début. Le début avec l'arrivée d'Electre. Electre qui passe pratiquement son temps à pleurer la disparition de son frère Oreste. Pourtant, c'est elle qui a sauvé Oreste lorsque Agamemnon a été tué par Clytemnestre et Égiste. Et personne ne sait vraiment où est passé Oreste. Personne ne sait vraiment même s'il est toujours vivant. Et lorsqu'elle se lamente, le cœur commente, comme souvent dans le théâtre grec, le cœur commente ce qui se passe. Voici les premières interventions du cœur dans Électre de Sophocle. Le cœur s'adresse à Électre. Ô fille de la plus misérable des mères, ne seras-tu jamais rassasiée, Électre, de gémir sur celui qu'autrefois la perfide attira dans son piège impie, mettant Agamemnon à la merci d'un lâche. Ainsi, je ne crains pas de le dire à voix haute, périsse l'auteur du forfait. Électre, noble fille d'un noble sang, venez consoler la peine qui m'épuise. Je le sais, je le vois, car je lis dans vos cœurs, et cependant, je ne veux pas quitter mon deuil et cesser de pleurer les malheurs de mon père. Vous qui me comprenez, mes chères confidentes, je suis folle, c'est vrai, mais je vous en supplie, laissez-moi être folle. Le cœur est quoi? Des marées infernaux nous descendrons tous. Ni prières ni larmes ne feront revenir ton père. Ta douleur, sans mesure, incessante, incurable, te tuera et gémir ne te soulage point. Dis, à quoi bon vouloir toujours souffrir? Électre, ils n'ont rien dans le cœur, ceux qu'une mort affreuse prive de leurs parents et qui oublient. Combien me plaît mieux les pleurer dans la plainte sans fin. Appelle, et toi, oh, Niobé divine, tu m'apparais dans ton linceul de pierre, éternelle pleureuse. Le cœur, tu n'es pas la seule, ma fille, qui ait vu de près la douleur. Cependant, au palais, tu es la seule à t'y livrer sans fin. Vois les sœurs de ton sang, vois Chrysothémis, pense à cet heureux enfant qui, loin de tes épreuves en secret, a grandi afin qu'un jour la terre, illustre de Mycène, lorsque Zeus bienveillant qu'il aura son retour, sans lui, salue en lui le fils du sang royal. Oreste, ah! De l'attendre aussi, je ne suis jamais las. Tandis que sans époux et sans enfant, je vais toujours pleurant, traînant mes soucis éternels. Ce que j'ai fait pour lui, s'en souvient-il encore? Mes messages les reçoit-il? Il ne m'arrive à son sujet que des nouvelles décevantes. Qu'il soupire après son retour, je le veux bien, mais il ne daigne pas se montrer cependant. Le cœur, courage. Ma fille, courage. N'est-il plus dans le ciel un grand Zeus qui voit tout et de tout est le maître? Il faut lui confier l'excès de ton chagrin et laisser reposer sans l'oublier ta haine. Le temps est un dieu complaisant. Le fils d'Agamemnon ne t'a pas oublié. Oui, mais j'ai consumé les plus beaux de mes jours en espérer qu'en vain je n'en puis plus. Je me ronge orpheline et pour me protéger, je n'ai pas un homme qui m'aime. Comme une infirmière et comme une étrangère, sous le toit paternel, je fais la domestique. Pourtant, cette robe sordide, circulant autour des tables sans voir personne. Le cœur, hélas, l'horrible cri lors du retour, et sur le lit, l'horrible vision, la face de ton père, où, De son poids des reins, la hache s'était abattue. Traîtrise fut la conseillère, adultère le meurtrier. Dès longtemps, ils avaient semé l'horrible germe d'un crime. Ou parfois, je crois voir la main d'un dieu plus que d'un homme. Et l'être, hélas, entre tous mes jours, jour maudit que celui-là, mon père a vu l'ignoble mort brandie à coups redoublés par des mains complices, ces mains qui m'ont, des mêmes coups, brisé ma vie. Le cœur prend garde de l'entredire. Ne comprends-tu pas comment tu ne dois qu'à toi-même tes misères ou sans respect de toi, tu t'es jeté? Oui, tu n'as fait qu'ajouter à tes maux un excitant pour ton aigreur, guerre perpétuelle. Électre, c'est plus fort que moi. Dans l'excès de mon chagrin, je sais trop ce que vous me dites, je reconnais ma violence. Mais dans l'excès de mon chagrin, je ne reviendrai pas à ces transports qui me perdent tant que me retiendra la vie. Qui pourrait, quelle personne de bon sens, me croire capable d'entendre une parole salutaire? Laissez donc, laissez-moi vaine consolatrice. Ces deuils-là, voyez-vous, ils sont indissolubles. Le mien n'aura repos ni cesse. Innombrables seront mes plaintes à jamais. Et l'être qui apparaît dès sa première arrivée sur la scène comme inconsolable de la mort de son père et comme torturé par l'absence inexplicable de son frère au reste. Et arrive le coryphée qui vient lui apporter des nouvelles, elle ne sait pas encore lesquelles. J'ai honte, si à force de me plaindre je vous parais trop irritable, pardonnez-moi, mais je ne suis pas maîtresse de me conduire autrement. Quelle femme de sang noble ne serait capable à la vue du supplice paternel? Ce supplice, le jour, la nuit, sans trêve, je le vois qui recommence inlassablement. Il y a ma mère d'abord, oui, la femme qui m'a enfanté, je la hais plus que tout au monde. En outre, sous mon propre toit, je cohabite avec les assassins de mon père. Ils me commandent, ils m'accordent mon refus ce qu'ils veulent. Imagines-tu ce que sont pour moi les journées, lorsque mes yeux rencontrent Égiste assis sur le trône de mon père, portant les mêmes vêtements, versant devant le foyer des libations, à la place même où il a tué sa victime. Je vous propose une première pause musicale.
Thank you.
Et puis arrive Clytemnestre. On apprend par la même occasion que Égiste, son mari, n'est pas sur place. Clytemnestre à Électre. La bride sur le cou, à ce qu'il paraît. Te voilà rôdant à droite et à gauche. On voit qu'Égiste n'est pas là, qui t'a défendu de te montrer sur la porte pour faire honte à ta famille. Quand il est absent, tu te soucies peu de moi. Que de fois n'as-tu pas dit et redit devant tout le monde que je suis une effrontée, que je gouverne sans foi ni loi, que je t'abreuve d'outrage, toi et tout ce qui t'est cher. Et pourtant, je me contiens, je ne fais que riposter à tes insultes continuelles. Ton père, j'ai tué ton père, voilà ton éternel refrain. Oui, je l'ai tué, je le sais, et je n'ai pas à le nier. Et si tu avais, tant soit peu de raison, tu serais pour la justice. Ton père, l'objet de tes perpétuelles complaintes, n'a-t-il pas osé, fait sans exemple chez Hélène, offrir aux dieux ta sœur en sacrifice? Il avait pourtant moins souffert pour l'engendrer que moi pour la mettre au monde. Et puisque, se substituant à son frère Ménélas, il a tué la chair de ma chair, n'est-ce pas à moi qu'il en devait compte? Ton misérable père sans entrailles pour les siens, ce n'est-il pas le fait d'un démon, d'un père dénaturé? Je te le dis comme je le pense. Tant pis si cela blesse tes sentiments. Et la morte ne dirait pas autre chose si elle pouvait parler. Non, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Si tu n'admets pas mes raisons, acquiers toi-même un peu de bon sens avant de blâmer tes proches. Électre, c'est bon, je parle. Tu reconnais que tu as tué mon père, que tu l'as tué à bon droit ou non. Quelle honte, rien que dans l'aveu du fait. Or, je prétends que tu n'as pas tué à bon droit, mais séduite par les beaux discours d'un traître, lequel partage ta vie depuis ce temps. Car enfin, si un mort rachète un mort, ton tour est venu d'expier. N'allègue point des raisons qui n'en sont pas et apprends-moi, s'il te plaît, de quoi tu te venges lorsque tu couches avec ton complice aux mains rouges du sang de mon père, quand tu lui donnes une progéniture après avoir chassé tes enfants du premier lit, honorable fruit d'une honnête union. Diras-tu que tu ne fais que venger ta fille? Fille donc, si tu oses le prétendre. Épouser un ennemi pour venger sa fille, cela n'est pas beau. Mais tu n'es pas capable d'entendre raison, tu ne sais que crier que je calomnie ma mère. Or, tu n'es pas une mère pour moi. Tu es un tyran. Et je traîne une vie douloureuse au milieu des mots dont vous m'excédez l'un et l'autre. Quant à l'exilé qui t'a échappé à grand-peine autrefois, à l'infortuné Oreste, ces jours sont un tissu d'épreuves. Tu m'as souvent reproché de le nourrir pour ton châtiment, n'en doute pas. Si j'en avais eu des moyens, je n'y aurais pas manqué. Après cela, proclame partout que je suis une ingrate, une langue de vipère, une impudente. Si ce sont là mes qualités, j'ai apparemment de qui tenir. Et la pièce se complique quelque peu. Arrive un messager qui annonce la mort d'Oreste. Électre s'effondre. On lui donne une urne censée contenir les cendres de son frère. Elle pense que tout est fini, mais voilà que Chrysothémie, sa jeune sœur, vient lui apprendre qu'Oreste est bel et bien vivant. Et Électre découvre alors que la personne qui lui a remis soi-disant les cendres d'Oreste est en fait Oreste lui-même, qu'elle n'a pas reconnu parce qu'il a trop changé. Voici l'entrevue entre Électre et Oreste. Électre vient de recevoir l'urne contenant soi-disant les cendres de son frère. Ô cendres, ô tout ce qui subsiste de mon Oreste chéri, que vous me décevez, non. Ce n'est pas cela que j'espérais quand j'ai assuré sa fuite. Je soulève dans mes mains ce néant que tu es, toi si brillant de vie. Que ne suis-je morte avant de t'avoir dérobé par l'exil au cou des meurtriers. Si tu étais mort ce jour-là, tu aurais pris ta place dans le tombeau paternel. Et voilà, tu es mort par un accident cruel, loin de ton pays, loin de ton foyer, loin de ta sœur. Sur le bûcher, je n'ai pas recueilli comme il convenait ce pauvre poids de cendre. Des mains étrangères ont pris soin de toi, infortuné. Tu m'arrives, petit monceau de poussière, au creux d'une petite urne. Misère! Ma tendre sollicitude, à quoi aurait-elle servi? Et pourtant, je ne cessais de m'occuper de toi, si heureux de prendre cette peine. Tu étais un trésor pour moi, bien plus que pour ta mère. Les domestiques te négligeaient, ta vraie nourrice était moi. Oui, c'est ta sœur que tu appelais toujours, hélas. Un jour a suffi. Rien de tout cela ne subsiste pour nous. Tu es mort. Comme un orage, tu as tout emporté en t'en allant. Père est parti, je me suis consommé pour toi et tu n'es plus là. Ah, mes ennemis peuvent triompher. Ma mère en son cœur marâtre est folle de joie. Sans qu'elle le sût, tu m'as souvent envoyé tes nouvelles, tu me promettais de revenir, que tu serais notre vengeur. Le mauvais génie qui nous est commun nous a ravi cette joie. Il t'a rendu à moi, non, dans ta chère forme vivante, mais poussière et ombre inutile. Malheur, malheur à moi. Oreste finit par se faire reconnaître. Et pour ne point perdre de temps, il pénètre dans le palais et il tue sa mère, Clytemnestre. Cela ne se passe pas sur la scène, c'est en coulisses. De Clytemnestre, on n'entend que les cris d'épouvante, aucun cri de remords, bien sûr. Et Clytemnestre, la voix de Clytemnestre, disant à Oreste, « mon enfant, pitié, je t'ai mise au monde. » Électre, et toi, est-ce que tu as eu pitié de lui, pas plus que de son père? Voix de Clytemnestre, malheur à moi, je suis blessé. Électre, frappe deux fois si tu peux. Voix de Clytemnestre, malheur, un second coup. Électre, j'en souhaite autant. Aegisthe. Alors bien sûr, il reste à régler le sort d'Aegisthe. Clytemnestre a été tué par son fils Oreste. Aegisthe, donc, qu'on ne voit pas tout le long de la pièce, il n'arrive qu'à la fin de la pièce. Et il arrive tout content d'une bonne nouvelle. Il vient d'apprendre que Oreste est mort. Il ne sait pas encore, bien sûr, tout ce qui s'est passé. Et Électre au reste vont se charger de le désillusionner. À la Égiste, il pense que dans le palais se trouvent les cendres d'Oreste. Et il aperçoit un corps sous un voile, persuadé qu'il s'agit d'Oreste. Égiste, ôtez le voile qui me cache le mort afin que je m'acquitte à mon tour des gémissements dus à l'emparenté. Oreste, soulève-le toi-même. Il t'appartient plus qu'à moi de contempler ses restes et de les saluer tendrement. Le conseil est bon, je le suivrai, cependant, appelle Clytemnestre, elle doit être quelque part dans le palais. Oreste dévoile le cadavre. Elle est près de toi. Ne la cherche plus ailleurs. Égiste, malheur à moi, que vois-je? De quoi as-tu peur? Ses traits te sont-ils inconnus? Égiste, dans quelle pièce suis-je tombé? N'as-tu pas compris encore que tu t'adresses à un mort vivant? Malheur à moi. Au reste, sans nul doute, c'est lui qui me parle, et Égiste va quitter la scène, suivi par Oreste, qui s'apprête à le tuer, à l'envoyer rejoindre Clytemnestre. La pièce de Sophocle s'arrête là. D'autres ont repris le thème et l'ont développé autrement, mais ce texte-là de Sophocle reste fondamental. Je vous remercie de m'avoir écouté.